Bonjour à tous. Merci beaucoup aux quatre associations de m'avoir proposé de les accompagner. Je remercie tout spécialement Juliette Boutin qui m'a contacté et qui m'a parlé de cet après-midi. Et je crois pouvoir dire que j'ai pas longtemps du tout hésité pour donner mon accord, parce que je pense que c'est extrêmement important ce que les quatre associations vous proposent et pour vous aider. Je vais tout de suite appeler sur scène Éric Buzidan et Christian Landais, qui sont respectivement délégués généraux, le nouveau délégué général et délégué général adjoint de l'ADRC, que vous connaissez tous bien et qui, ça a déjà été dit, je voudrais le redire, joue un rôle extrêmement important pour tous nos cinémas.
Merci Jean-Marie. Donc, effectivement, je suis arrivé à l'ADRC il y a un mois et demi, donc je suis tout frais dans cette association qui a un long passé. Par la volonté des pouvoirs publics, notamment du ministère de la Culture dès 83 et du CNC, de faire de cette association un outil au service du maintien dans les territoires de cinéma de proximité et de permettre que ces cinémas puissent avoir accès toujours un accès facilité au film. Donc cette double mission, elle existe toujours et est toujours aussi prégnante. Il a été ajouté une mission sur au-delà de la diffusion des films inédits en salle et dans ces salles-là, une mission de diffusion du film du patrimoine dès 1999, qu'on décline avec des accompagnements spécifiques autour d'ateliers, de ciné-concerts, d'entretiens et de conférences. L'ADRC, pour vous donner un exemple du travail de l'ADRC en Auvergne-Rhône-Alpes, elle est intervenue depuis 2010 sur 33 projets de rénovation, d'extension, de création en matière de conseils, d'études sur plan, diagnostic, faisabilité, assistance pluriannuelle à projet. Pour l'instant, et enfin à ce jour, l'ADRC intervient sur un projet à Mornant. Donc, et juste pour vous donner une idée de l'intervention en termes de circulation pour les films, en 2018, l'agence est intervenue sur la circulation de 162 films inédits. Et pour le patrimoine, elle a proposé des circulations de programmes à 106 cinémas. D'ailleurs, sur le patrimoine, nous on organise aussi depuis l'an dernier le festival Play It Again, qu'on va reprendre et renouveler en 2020. Sur la période du 15 au 28 avril prochain. Donc, vos salles pourront en profiter si elles le souhaitent. Voilà, on va passer à l'objet principal de notre intervention, qui est la description du parc de salles en Auvergne-Rhône-Alpes par rapport à la... Oui, c'est bon, c'est dans mon sens. Par rapport au marché national. Donc on le voit, là c'est une cartographie qui est réalisée par les services de l'agence. Cette cartographie provient des chiffres 2018 du CNC et elle permet tout de suite de constater l'extraordinaire maillage du territoire de la région Rhône-Alpes-Auvergne, avec une forme de bipolarisation géographique quand même. On voit bien que l'Auvergne est... L'ex-région Rhône-Alpes est très, très, très bien équipée. Donc l'ouest de la région est très bien équipée. L'est de la région est très bien équipée. L'ouest, les pour l'instant, un peu moins. Voilà, on est dans la... Comme il a été dit avant, cette région est la mieux équipée de France. Devant l'Île-de-France, il y a 323 cinémas en région Rhône-Alpes-Auvergne, contre 311 en Île-de-France. C'est aussi, on peut le voir par l'iconographie sur les cinémas art et essai, la région la mieux équipée en cinéma art et essai, devant l'Occitanie, devant 3-4 régions en plus. Ouais. Sur un plan pluriannuel, sur 20 ans, depuis 20 ans, la région Rhône-Alpes a perdu 25 cinémas. Donc par rapport au phénomène de multiplexification qui a existé et qui s'est vraiment développé post-95-96, c'est une région qui a très bien résisté. Et ces cinémas de proximité, comme vous le verrez après, ont très bien résisté à l'implantation des gros complexes. On peut peut-être passer à la slide d'après. Donc là, on vous a juste placé l'évolution au million d'entrées de la région Rhône-Alpes-Auvergne, qui est en bas, donc qui passe de, il n'y a pas les chiffres là, mais c'est de 18 à 23 millions d'entrées, quand le marché national passe de 150 à 201 millions d'entrées en 2018. Donc on a une programmation qui est tout à fait concordante entre le marché national et le marché de la région Rhône-Alpes-Auvergne. Après, sur la slide d'après, j'ai choisi, par mon ancienne casquette, pardon, de faire un point sur comment les projets en Rhône-Alpes-Auvergne évoluent au regard des dossiers présentés en CDAC, donc en Commission départementale d'aménagement cinématographique, ou en Commission nationale d'aménagement cinématographique. Et on voit donc qu'il y a un vrai dynamisme des projets, puisque opérateurs publics comme privés, depuis 2010, il y a 42 projets qui ont été soumis, moyenne de 4 par an. C'est une des meilleures régions en termes de dynamisme. Il y a le PACA là, qui sur cette même période qui est un peu devant. Et une sélectivité plus grande des projets par les commissions départementales d'aménagement cinématographique sur les projets importants. Par important, j'entends important en taille. Donc pour les projets de plus de 6 écrans, il y a 25% de refus, 75% d'autorisation. Alors que sur les projets de cinéma de proximité, définis par une taille allant de 1 à 5 écrans, on a une totalité des projets qui ont été autorisés. Sur la slide d'après, on peut voir là aussi ce que ça fait écho à la cartographie. La répartition géographique contrastée des projets en Auvergne-Rhône-Alpes avec 23 projets sur les 42 qui se situent dans les 3 départements les plus peuplés de la région, et sur ces 23 projets, 11 qui se situent dans les grandes agglomérations de Lyon, Saint-Étienne et Grenoble, et 5 qui se situent en périphérie directe de ces agglomérations, autrement dit dans les aires urbaines de ces grandes villes. Donc il y a quand même une assez forte polarisation des projets dans les grandes agglomérations. Alors là, on vous présente juste des petites slides sur l'évolution récente du parc de cinéma. Donc entre 2014 et 2018, on voit que le parc national progresse de 1%, quand le parc Auvergne-Rhône-Alpes progresse de 2,5% en établissement. Donc on passe de 316 à 324. Donc on a un dynamisme plus fort que la moyenne nationale sur Auvergne-Rhône-Alpes. Sur la slide d'après, on va voir en écran là aussi, même constat, une progression en nombre d'écrans plus importante que l'évolution du parc d'écran au niveau national, en passant pour la fréquentation. Là par contre, c'est sur 2 années très différentes, hein, puisqu'en 2014, on est sur un marché global à 209 millions d'entrées de mémoire. En 2018 à 201, donc oui c'est ça, c'est marqué en plus. Donc le marché global il perd 3,8%, mais la perte du marché en Auvergne-Rhône-Alpes est moins que proportionnelle puisqu'il baisse que de 3%. Donc il y a un phénomène de maîtrise de la baisse de fréquentation dans la région. Sur la slide d'après, enfin, on a voulu faire un focus sur par typologie de cinéma avec 3 grandes typologies, donc les cinémas de proximité en 5 écrans, les cinémas multiplex, on va dire moyens, de 6 à 10 écrans, et les gros multiplex de 11 écrans à 15 écrans. Donc sur le parc des cinémas de proximité, on voit qu'il évolue de manière très très modeste, de 282 à 284 cinémas, donc on voit que c'est quand même l'immense majorité du parc, c'est des cinémas de proximité. Ce sont des cinémas de proximité en Auvergne-Rhône-Alpes, avec une fréquentation qui baisse sur la période, mais qui baisse là aussi de manière moins que proportionnelle par rapport à l'évolution de la fréquentation nationale, puisqu'on était à moins 3,8%, et les cinémas de proximité ne baissent que de moins 2%. Ce qui est intéressant, je trouve, le plus, c'est la différence entre les cinémas donc les complexes, les gros complexes ou les petits multiplexes de 6 à 10 écrans et les gros multiplexes de plus de 11 à 15 écrans. Donc on voit que ceux qui ont beaucoup plus perdu de fréquentation, c'est les gros multiplexes. Donc ils sont peu nombreux. Hein. Ils sont 11 à 12 sur la période. Ils perdent 10% de fréquentation, avec une moyenne quand même qui reste très élevée par établissement. Mais ils perdent beaucoup de fréquentation, beaucoup plus que le marché national. Mais en revanche, et contrairement à ce qui peut être dit dans d'autres enceintes, c'est sans doute pas les cinémas de proximité qui font baisser la fréquentation de ces établissements-là, mais plus l'arrivée de cinémas de 6 à 10 écrans, on le voit très bien, où il y en a un peu plus, de 23 à 28. Donc on a 5 établissements en plus de cette catégorie-là. Et eux, c'est la seule strate, alors que le marché est baissier, puisqu'on est toujours à moins 3,8%, c'est la seule strate d'établissements qui progresse à 3,40, même s'il y a un effet volume, parce qu'il y a plus d'établissements de cette catégorie. Voilà, donc vous avez là une évolution récente du parc de salles en Auvergne-Rhône-Alpes. Bon, donc je vais passer la parole à Christian, qui va vous faire une présentation des travaux de l'agence.
D'une étude de cas. Comme vous le disiez tout à l'heure en introduction, et c'est ce que vient de démontrer Eric, les salles de proximité, c'est ce qui fait le maillage du territoire, c'est 80% du parc. C'est pas corrélé avec la part de marché, évidemment. Et c'est là où on façonne les spectateurs de demain et ça nourrit la fréquentation globale en France, que ce soit pour la grande, la petite ou la moyenne exploitation. Alors on peut en être très très satisfait parce qu'on a un parc de salles les plus denses d'Europe, certains disent du monde. Voilà, mais on est toujours assez fiers, les Français sont toujours assez fiers de leur performance. Mais c'est un travail d'abord qui est lié à l'intervention publique au moment des creux de la fréquentation nationale, le CNC et d'autres, et des interventions des collectivités publiques. Il faut savoir qu'à la DRC, dans notre action de diffusion et d'intervention quand il y a des difficultés d'accès au film, la région Rhône-Alpes-Auvergne, c'est celle sur laquelle on intervient le plus. Ce qui veut dire que malgré le parfait maillage du territoire, malgré l'offre en ARESEC qui est très importante sur cette région, il y a toujours, malgré le numérique, malgré les évolutions, une tension sur l'accès au film qui est toujours très très important. Alors j'ai voulu commencer par un projet d'une ville qui est un peu symptomatique et vénitieux, où on voit les deux temps de l'intervention publique sur cette commune. C'était d'abord une commune rurale à la fin du 19e, et puis il a été décidé de déporter les installations industrielles et chimiques au bord du Rhône, à côté de cette ville, cette petite ville. Slide suivante, s'il vous plaît. Voilà. Et donc, l'implantation de ces grandes implantations industrielles, il a fallu créer après-guerre, en même temps qu'on était dans un processus de reconstruction, un nouveau quartier construit ex nihilo, le quartier des Minguettes, pour pouvoir loger toute cette nouvelle population. Avec, à l'image des modèles d'aménagement architecturaux de l'époque, un grand ensemble avec des tours, des barres, des séparations des fonctions entre les circulations piétonnes et de circulation routière. Slide suivante. Ça a bien marché pendant un certain temps. Et alors vous voyez là, c'est cette grande zone qui est ici, juste en dessous, donc une opposition entre quasiment une ville nouvelle et la ville ancienne. Slide suivante. Et puis, dans cette production architecturale et urbaine, on crée ce quartier qui est relativement détaché de la ville historique, avec un élément structurant qui est le centre commercial et plein de centres de quartier. Et donc un ancien centre socioculturel de quartier dans lequel a été logé la salle de cinéma, l'activité cinématographique. Slide suivante, alors avec un bâtiment d'une architecture, on va dire, un peu brutale, comme on le faisait à cette époque, avec une grande salle, une salle d'exposition et puis un accueil. Et on a été sollicité au début des années 2000. Et donc, dans la première période, intervention publique forte, avec l'idée, on va dire, militante de la ville d'implanter des activités culturelles au cœur de ces territoires. Slide suivante. Bon, comme vous le savez, ça a très bien démarré, ces grands ensembles, au début des années 60-70. Et puis, il y a eu quelques difficultés sociales avec une moins grande, diversification de la population. Slide suivante. Donc, on pense à ce moment-là, avec toute une politique de requalification des quartiers, que la culture peut participer des liens sociaux avec l'implantation d'une nouvelle médiathèque au bord de la ville ancienne. Slide suivante. Et puis, commencent à arriver des difficultés d'accès aux films. Et la seule, dans cette mécanique infernale qui est toujours celle dans laquelle on est aujourd'hui, pour arriver à résoudre l'équation économique, pour avoir les films importants qui vont attirer le public, et puis avoir une et maintenir une diversification de l'offre cinématographique, créer des écrans supplémentaires. Donc ça, c'était une première étude qu'on avait faite pour passer d'un écran à trois écrans. Nous, on pensait d'ailleurs qu'il fallait démolir le bâtiment d'origine. Mais la ville était tout à fait volontaire pour garder ce cinéma au cœur des Minguettes comme un vecteur de développement et qui va s'intégrer dans un projet urbain global. Slide suivante. Donc voilà, gros projet urbain de requalification avec des démolitions de tours pour redonner un lien social et urbain plus développé. Slide suivante. Voilà, avec tout à fait en haut donc le cinéma Jarry-Philippe, qui est le bâtiment qui est au milieu, qui va être réintégré dans un ensemble urbain, le retraitement du boulevard urbain, qui était essentiellement un boulevard circulatoire, qui devient le passage du tramway avec de la végétalisation, une école de musique, le cinéma, un centre académique, et puis du logement intermédiaire, qui n'est pas du tout dans la facture des années 60, mais dans une facture plus contemporaine. Slide suivante. Donc voilà, avec la salle principale, les deux autres salles, et puis pour arriver à loger les deux salles supplémentaires, on est obligé d'élargir le bâtiment. Avec, oui, vous avez les poteaux, la ligne de poteaux qui représente l'ancienne limite du bâtiment. Slide suivante, on va voir quelques images du bâtiment. Alors, c'est une façon de réenglober, en fait, ce bâtiment, cette extension, dans un projet global avec un aménagement des espaces publics. Voilà, avec une polychromie dans le hall. Là, vous voyez la limite entre la partie ancienne, la façade ancienne et la nouvelle façade. Et puis, et ben voilà, une image à la fois du hall et puis de la salle, qui a été aménagée, la salle, dans un côté très, très fonctionnel. Le grand écran et des salles blanches. Voilà, des éléments d'information sur la construction du projet. En 2001, 56 000 entrées avec un seul écran. En 2018, 85 000, donc pratiquement un tiers de fréquentation en plus, trois écrans, deux labels. Le coût global est important parce qu'il s'intègre dans un projet urbain global, 2,6 millions d'euros, la masse subventionnable un peu moins de 2 millions, une aide sélective de 150 000 euros. Je pense qu'il y a eu un débat sur en aide sélective sur la nécessité du troisième écran. Voilà, et puis des éléments de méthodologie, je dirais, qui vont introduire tout le suite des débats de tout à l'heure. Dans notre action de formation et de conseil, on établit un certain nombre de documents de soutien aux collectivités et aux exploitants. Et on a produit ce guide là, début 2019, Créer ou transformer un cinéma. C'est comment construire en 6 chapitres une salle de cinéma aujourd'hui qui va du maillage du territoire et du contexte général à l'image de ce dont parlait Éric Buzidon tout à l'heure. Le projet architectural et le projet d'exploitation, les réglementations à suivre, les modes de gestion et les modes de financement. On remettra tout à l'heure aux associations qui ont organisé cette rencontre un ensemble de clés USB qui sont à votre disposition. Et évidemment, le guide est disponible directement sur le site de l'ADRC, ainsi que les cartes. Donc là, quelques éléments de méthode. Si chaque projet, effectivement, doit répondre à un contexte particulier et variable suivant le contexte, néanmoins, il y a une certaine méthodologie qui doit être mise en œuvre, parce que nous, on voit trop de projets qui partent la fleur au fusil, et on perd beaucoup de temps. Et je pense qu'il faut perdre un peu de temps au début d'un projet, qu'il y ait un dialogue entre les collectivités, les associations, les exploitants qui sont les usagers du lieu, pour s'entendre sur un projet commun, pour éviter, sinon on va perdre beaucoup de temps par la suite. Alors, il faut donc définir le contexte dans lequel s'inscrit le projet, et puis voilà, mettre en place un certain nombre de diagnostics et d'études. Slide suivante. Alors, définir quel est le projet, qui peut être de plusieurs ordres, avec évidemment une mixité entre ces objectifs. La rénovation et la qualité d'accueil à développer, c'est évidemment un sujet important pour les salles de proximité dans lesquelles l'espace d'accueil, ça n'est pas qu'un espace de billetterie, c'est un espace d'interface entre l'espace public et le lieu de la projection du film, dans lequel il y a de l'accueil, il y a de l'animation, il peut y avoir de l'éducation à l'image, il peut y avoir un point de lecture, et c'est aussi un lieu où peut se rencontrer et l'équipe et le public. Donc c'est un lieu évidemment essentiel. Une mise en accessibilité d'un établissement qui nécessite souvent une pensée globale sur la restructuration de l'organisation de l'espace, comment chaque spectateur, quelle que soit sa situation d'handicap ou quelqu'un qui est totalement mobile, de participer, de profiter de l'ensemble des aménagements que vous mettez en place dans la salle, que ce soit des handicaps sensoriels ou que ce soit des handicaps physiques, des possibilités d'extension d'un écran ou de plusieurs écrans supplémentaires, qui nécessitent peut-être un transfert sur un nouveau lieu. Sur quel lieu? Où est la centralité d'aujourd'hui? Parce que la centralité de 1965 n'est peut-être pas la centralité de 2018 ou 2019. Et la création d'un nouvel établissement. Pour quelle ambition d'exploitation? Est-ce qu'il s'agit de conquérir ou de créer un nouveau marché? D'élargir l'offre et d'accroître la fréquentation? De mieux exposer les films, qui est souvent un sujet important dans la création d'écrans supplémentaires et avec le nombre de films qui est en progression et puis des contraintes demandées en nombre de séances par les distributeurs. Donc comment on arrive effectivement à conjuguer ces deux contraintes, accueillir dans de bonnes conditions le public, assurer des actions de médiation qui nécessitent peut-être des espaces spécifiques ou des aménagements spécifiques. Et pour cela, deux familles d'études, études de marché pour définir le projet d'exploitation et des études pour le projet architectural. Image suivante. Donc ces deux arborescences, d'un côté la filière plus économique allant jusqu'au plan de financement et une demande de subvention au CNC, et éventuellement une étude juridique dans les cas d'articulation entre la collectivité locale et une structure d'exploitation, et puis une filière technique de développement du projet, avec des ponts entre ces deux problématiques. Souvent, nous, quand on intervient sur un projet, on se rend compte qu'il y a une filière technique avec une décision politique de définir, de construction d'un projet, et il n'y a pas eu une réflexion en amont avec les élus à la culture ou les élus au commerce sur à quoi sert ce nouveau bâtiment et quel est le contexte dans lequel on agit. Voilà, avec éventuellement des missions de conseil à solliciter. Alors ça peut être la DRC, les CAUE, des assistances maîtrises d'ouvrage qui peuvent être faites par des cabinets privés, des programmistes, et évidemment dans la partie économique, en particulier les deux cabinets d'études économiques qui sont bien connus dans notre secteur, dont l'un est présent ici même. La suite. Et puis la question de la localisation est évidemment importante. Au-delà des questions d'idéologie, pour certains, et de l'idée de la modernité, pendant 15 ans, on a entendu que la modernité, c'était de faire des très grands multiplexes en périphérie. Aujourd'hui, on voit qu'il y a une sorte de retour sur cette problématique. On sait aussi que les salles de proximité qui n'ont pas forcément un marché qui permet d'avoir 6, 7, 8, 9, 10, 12 écrans qui créent une attraction naturelle. Avec 3 et 4 écrans, se situer en périphérie, dans une zone commerciale dans laquelle il n'y aura plus d'activité à partir de 20h, c'est sans doute pas la meilleure solution. Même si c'est la solution foncière. Et on arrive toujours à trouver des solutions intermédiaires qui ne sont pas forcément l'hypercentre, qui peuvent être des espaces d'interface, par exemple autour d'une gare routière, qui est l'articulation entre la ville-centre et des quartiers d'extension. Et en même temps, on est encore dans la ville. Et c'est sans doute ce choix de localisation est très important pour développer vos actions. On ne défend pas le cinéma de la même façon, évidemment, dans une ZAC commerciale, même si il y a une justification dans certains projets, et dans une forme d'urbanisation établie. Image suivante. Ah oui, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'effectivement, dans un certain nombre de cas, on doit analyser la potentialité de développement d'un espace dans un espace construit pour savoir jusqu'où on peut construire un nombre de fauteuils qui n'est pas forcément corrélé avec l'étude de marché qu'aura défini qu'il serait nécessaire de faire 3 écrans supplémentaires, parce que c'est forcément une génération d'espace supplémentaire et un coût supplémentaire. Image suivante. Voilà. Et c'est les objectifs vers lesquels il faut aller aujourd'hui dans la salle de cinéma de demain ou d'aujourd'hui. Et notamment pour les salles de proximité, je me souviens qu'un grand patron de TF1, une certaine, bien connu à une époque, disait « c'est pas au leader d'inventer ». C'est pas au leader d'inventer, ça veut dire que quand on est exploitant de la petite ou de la moyenne exploitation, on est obligé, comme on n'a pas la force d'attraction d'un grand réseau, d'inventer tous les jours, spatialement, dans le rapport avec le public, dans la façon de montrer les films. Donc, d'intégrer évidemment les questions de confort et d'accessibilité physique et sensorielle, on en a parlé, les questions d'un accueil fluide, multifonctionnel et convivial, et des objectifs de développement durable, parce que c'est des objectifs sociétaux qui s'impactent à toute la société, y compris aux salles de cinéma. Voilà, et après, il y a un calendrier qui est variable si c'est un montage d'une opération en maîtrise d'ouvrage public, qui est au moins d'une, on ne va pas décrire là aujourd'hui, on n'en a pas le temps, mais au moins 3 à 4 ans, 2 ans au minimum, mais dans une opération publique, c'est rare qu'on arrive à tenir dans les 2 ans. Donc entre les études en amont, le choix d'un architecte, la réalisation des études, du chantier, des demandes de subvention, c'est généralement entre 3 et 4 ans. Image suivante. On va passer très vite. Celle d'après. Pour terminer sur un dernier cas, c'est la SCOP des navires à Aubenas, qui exploitait deux exploitations, deux cinémas d'ancienne génération, avec des salles superposées. La mise en accessibilité était évidemment complexe. Donc ils sont allés voir le maire d'Aubenas, qui avait un projet en entrée de ville de démolir un ancien garage, il avait promis de créer un parking. Ce qui donne cette forme un peu particulière avec le cinéma en partie basse et un parking sur la partie haute, ce qui crée ces espèces d'ailettes que vous voyez en partie haute du bâtiment et qui donne un signal particulier. Et je crois que c'est la dernière slide. Oui, et puis là, c'est un ensemble d'exemples de projets références qui décline les questions de centralité et de cinéma avec des échelles différentes, d'une salle mono-écran ici à Poix-de-Picardie jusqu'à Aurillac, où c'est un mini-plex de centre-ville de 7 écrans pour la ville, c'était très important d'avoir le cinéma en centre-ville. Cette ville est devenue très résidentielle, très administrative. À 18h, il n'y a plus personne dans les rues et le cinéma était évidemment un vecteur de développement très très important.
Je m'arrêterai là. Merci beaucoup, Christian. Je tiens d'ailleurs à remercier énormément personnellement et Christian et Eric qui m'ont beaucoup, beaucoup aidé. Vous l'avez vu, c'est des puits de science pour la rédaction du rapport sur la salle de demain. Vous avez fait partie de tous les gens qui m'ont aidé. Je vois également Corentin que j'aurai l'occasion de saluer. Je pense qu'on a, pour récapituler, et je vais vous laisser tout de suite la parole, mais si vous avez des questions, ce qui me frappe, moi, c'est deux choses. C'est d'abord, en France en général, et on le voit là, on a la très grande chance pour les élus et pour les personnes qui s'occupent de cinéma de pouvoir s'appuyer tant sur le CNC que sur la DRC. Et je rajouterais, en prêchant pour ma paroisse, la CST, la Commission supérieure technique, sur des gens qui sont vraiment dévoués et dédiés au cinéma et qui sont, je le redis, des puits de sens, qui sont des grands, grands sachants. Il faut absolument s'appuyer sur eux, parce qu'il y a une expérience, une expertise, une excellence, qui est vraiment, c'est un peu du cocorico, on dit souvent que les Français, comme le disait Christian, on aime bien se vanter, voire être arrogant, mais pour tourner pas mal à l'international, c'est une vraie grande chance de pouvoir s'appuyer sur le CNC, la DRC, la CST, entre autres. Et donc, c'est un appel aux élus et à vous tous. Utilisez ces ressources, qui ne sont pas uniquement des ressources financières, mais qui sont aussi des ressources de savoir, de réflexion, d'expérience, qui sont à votre disposition pour élaborer des projets et les faire avancer et les faire advenir. Est-ce que vous avez dans la salle des questions à ce stade-là, avant de passer à la suite de notre programme? Oui, madame. Alors, attendez, je pense qu'on peut peut-être vous... Oui. Parce qu'on est dans une très belle et très grande salle ici, alors si vous parlez, on ne va pas vous entendre.
Alors, juste vous rappeler que voilà, présentez-vous, parce qu'en fait, quand on enregistre effectivement toutes les discussions, parce que ça nous intéresse d'avoir tous vos retours. Merci.
Ah, si c'est enregistré, je vais dire moins de choses, moins de bêtises, alors.
Bonjour, Rosa Ricas, Cinéma Gérard Philippe, donc à Vénissieux. Je suis donc en présence avec ma directrice, Antonia Naïm, qui est présente. Donc on est ravis de voir qu'on a été cité en exemple. On ne regrette pas du tout la collaboration qu'on a eue, puisque du coup le cinéma a fait ses 10 ans de réouverture. C'était juste pour dire que voilà, donc on a beaucoup apprécié l'aide de la DRC, il n'y a pas de problème. Deuxièmement, c'est que c'est vraiment un lieu de médiation culturelle que nos politiques nous ont demandé de continuer à faire sur le plateau des Minguettes, puisque le hall n'est pas assez grand d'ailleurs. On regrette qu'il ne soit pas encore plus grand. Donc voilà, donc c'est un cinéma qui fonctionne bien. Et juste, je voulais faire une petite remarque sur le dernier objectif développement durable. On a inauguré il y a un mois des panneaux photovoltaïques sur le toit du cinéma et on est en autonomie complète au niveau électricité. Voilà, donc c'était pour vous dire voilà, le souci que l'on a à Vénissieux d'arriver à faire un petit peu du développement durable dans un lieu culturel. Voilà. Mais merci pour la DRC.
Merci madame pour ce témoignage.